Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Par les temps qui courent, c'est chaque soir une heure d'entretien avec les artistes dans l'actualité culturelle. Ce soir, avec le documentariste Stefano Savona.
Un tango, une danse, un baiser.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis vas-y. Roman de Berthe Lelièvre.
Et c'est que le dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Amal, une jeune fille palestinienne, dessine un sycomore avec un morceau de charbon. Plus tard dans le film, c'est son frère Mahmoud qui dessine au stylo le visage de son père. Plus tard encore dans le film, des hommes tracent des signes sur le sable avec leurs mains pour expliquer les rapports de force entre les partis palestiniens à Gaza et l'armée israélienne. Nous sommes dans le village de Zeytoun, situé dans la bande de Gaza, parmi la famille Samouni, une communauté que vous avez filmée en 2010, Stefano Savona, un an après l'opération Plomb durci qui a décimé 29 de ses membres. Votre film mêle les images que vous avez tournées, les archives de l'armée israélienne et des images d'animation qui donnent à voir le passé et les disparus des Samouni, des images qui témoignent et documentent la violence, ses fantômes, ses survivances et ses métamorphoses. Bonsoir Stefano Savona.
Bonsoir.
Vous êtes documentariste et votre dernier film, Samouni Road, est sorti en salle mercredi dernier.
Mon fils Hammam appelle son père. Pourquoi tu es là-haut, papa? Viens manger avec nous. Elle aussi, elle appelle papa. Elle appelle Ahmed, je la réveille et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, Amal? Elle dit, papa. À cause des éclats d'obus dans sa tête, elle a mal aux yeux. Là, je dois être le père et la mère pour mes enfants. Qui pourra me protéger maintenant, sinon mon fils aîné? Lui, Mahmoud. Il doit apprendre à être un père pour ses frères. Je lui apprends à devenir un homme. Qui va m'ouvrir la porte de la maison?
Personne n'entre dans ce terrain. Tu sais quoi? Une fois on rentrait des champs, il s'entraînait et piou, une roquette. Une roquette est tombée ici, dans ce terrain. On leur a dit, et s'il y avait eu du monde, il y aurait eu des morts. Je vous ai vu voler, vous allez le regretter. Ils se sont enfuis. Voilà les bonnes amandes. Ramassez mais sans casser une branche. Si vous cassez une branche, vous ne reviendrez plus ici. Stefano Savona, c'est un premier extrait de votre film Samouni Road qu'on entend, dans lequel on entend certains membres de cette famille, la famille Samouni, notamment la mère, puis Amal et Mahmoud. Comment vous les avez rencontrés, ces gens-là?
Je les ai rencontrés lors d'un autre film que j'étais en train de tourner à Gaza, qui en fait, plus qu'un film, c'était des courts-métrages que je mettais en ligne tous les jours pendant l'opération Plomb durci. Donc en janvier 2009, j'étais rentré là-bas avec ma caméra pour témoigner de la guerre de l'intérieur de façon un peu naïve, sans doute, mais avec l'idée qu'avec tout simplement une caméra, un micro, j'aurais pu raconter les quotidiens de qu'est-ce que ça voulait dire vivre à Gaza sous les bombes en ces moments-là. Et donc j'ai fait tous ces courts-métrages, c'est simple, et après la guerre était finie, j'étais prêt pour rentrer chez moi. J'ai connu cette famille. Donc, dans le nord de la bande de Gaza, à Zaytoun, et immédiatement, l'histoire était quand même au centre de l'actualité, parce que c'était un événement majeur parmi tous les tragédies qu'il y avait eu dans cette guerre. Ces bombardements avaient quand même attiré l'attention de beaucoup de médias. Donc, moi aussi, je suis rendu dans ces quartiers. Et au fil des jours, en fait, j'ai connu surtout les enfants, les adolescents, et ça m'a donné envie d'en savoir plus. D'abord, de poser ma caméra, d'arrêter de filmer, de commencer à poser des questions aussi hors caméra. J'ai remis en discussion aussi tout le travail que je venais de faire, en fait. Parce que là, cette prétention que j'avais eu de pouvoir raconter un conflit juste en me déplaçant avec une caméra sur sa surface, sur la surface détruite par des bombardements, je me suis rendu compte de comment la photo et le cinéma fait comme ça est peut-être nécessaire mais pas suffisant pour raconter tout ça. Parce qu'en fait, moi là, c'était 10 jours après les bombardements et déjà ressurgissaient des choses qui étaient de l'ordre des mémoires beaucoup plus anciennes, qui avaient vraiment besoin d'être racontées, donc je me suis dit, il faut prendre le temps de reconstruire le passé, de savoir qui sont les protagonistes de cette histoire qui nous est balancée chaque guerre, donc tous les 2 ans, tous les 3 ans, comme quelque chose de donné, d'inévitable. Donc je me dis, le cinéma doit quand même se battre contre l'idée de l'inévitable pour laisser une place à la possibilité. Et là, ça a commencé un long travail qui, 10 ans plus tard, fait que le film est fini.
C'était quoi ? C'était quelque chose dans l'immédiateté de l'image qui ne vous satisfaisait pas à ce moment-là ?
C'était une... on peut toujours dire que l'image, elle parle pas par elle-même, mais ce n'est pas le cas, en fait. Parce qu'il faut, savoir, déjà, plus les images sont tragiques, moins elles sont universelles, je pense, au fond. Parce que dans leur apparente universalité, ils cachent l'unicité de chaque histoire. On peut s'émouvoir, évidemment, de l'humanité, donc de la tragédie, mais si on prend pas le temps de savoir qui était la victime ou qui était les protagonistes de l'histoire, on lui rend pas justice, au fond. Parce que l'émotion, ça reste superficiel. C'est comme les droits de l'homme s'est réduit, comme on disait, en Arendt, souvent aux droits des animaux. C'est-à-dire, on réduit quelqu'un à sa propre, à la vie, à la mort, à la base de sa subsistance, et on oublie de prendre en compte son unicité qui est, par contre, dans son histoire, ses idées politiques, ses choix de vie. Et réduits à la pure vie ou mort, nous ne sommes plus rien.
Et donc vous êtes retourné dans cette zone de Zeytoun un an après, en 2010, cette fois pour tourner des images.
Oui, j'ai tourné déjà en 2009, j'ai pas mal tourné au fond, parce que quand même, j'ai tourné peut-être les images plus fortes du film qu'après j'ai monté. En fait, les images des jours après la tragédie sont assez fortes, mais elles sont fortes une fois qu'on a compris qui sont leurs protagonistes, qu'on les a connus ailleurs, du moment de détresse extrême. C'est-à-dire, on reproduit, on reconstruit, on donne une profondeur à cette douleur qui est assez évidente, mais qui n'a pas en soi de profondeur. Donc, en 2009, j'avais tourné beaucoup d'images qui sont, une demi-heure de ces images font partie du film, dans la deuxième partie. Et en 2010, ils m'ont appelé pour me dire, on va se marier finalement, parce qu'il y avait des protagonistes du film.
Deux membres de la communauté qui ont décidé de se marier.
Oui, qui avaient décidé de se marier avant la guerre, qui avaient perdu leur père et mère. Et donc, ils avaient décidé de ne plus se marier, ils ne savaient plus comment faire. Finalement, un an plus tard, ils ont décidé de se marier quand même, même contre l'avis de beaucoup d'autres membres de la communauté. Donc, ils m'ont appelé pour dire, viens au mariage, viens filmer. Donc, je suis reparti et je me suis dit, c'est peut-être une possibilité d'ajouter une dimension temporelle plus compliquée, plus complexe à mes images de 2009. Et c'était le cas parce que déjà, tous les quartiers avaient changé. Il y avait même la couleur des champs était à nouveau vert. Il n'y avait pas cette sorte de désert qui est pour nous l'image typique de la bande de Gaza. Alors que c'est typique parce qu'on y arrive toujours après un bombardement. Sinon, c'est comme chez moi en Sicile, c'est vert, c'est la Méditerranée, c'est des oliviers, des champs. Et donc, cela m'avait déjà frappé parce que je me suis dit, j'ai passé quand même un mois, il y a un an ici, et je ne reconnais pas les quartiers. Et après, je voyais que j'ai commencé à voir les images du passé, des vidéos de mariage, des photos. Je me suis dit, mais encore une fois, je ne reconnais pas les quartiers. Ça ne suffit pas non plus de montrer la reconstruction. Il faut aussi ajouter ma propre reconstruction du passé, peut-être. Et là, l'idée de l'animation a commencé à me venir à l'esprit et à dire, OK, si j'ai la prétention de faire des films, je ne peux pas juste enregistrer ce qui est là, mais je dois donner ma contribution à la reconstruction des histoires. Donc j'ai commencé ce long et pénible travail d'animation.
Une des particularités de cette communauté, du clan Samouni, c'est que c'est une communauté agricole, justement, et vous parliez du vert qui revient un an après. Qu'est-ce qui vous a frappé, justement, dans ces spécificités agricoles de cette communauté?
C'est qu'en fait, souvent, dans la rhétorique palestinienne, dans la terre, est, évidemment, c'est central, vu qu'ils ont perdu leur terre. Donc, ils mettent toujours la terre au centre du discours. Mais malheureusement, et c'est pas leur faute évidemment, cette terre est toujours absente parce que leur terre s'est rétrécie de plus en plus. Et même à Gaza, c'est une, comme il y a beaucoup de réfugiés qui sont, enfin, 80% de la population c'est des réfugiés qui sont arrivés en 48, en 67. Et du coup, c'est très urbanisé, c'est presque un champ de réfugiés à ciel ouvert, c'est une prison en fait. Mais il y a quand même des endroits très restreinte, comme où il y a les Samouni, où c'est vraiment des paysans qui ont toujours habité là-bas, et donc qui ont une relation à la terre qui est très réelle. C'est pas une relation rhétorique. Enfin, ils parlent pas de la terre des Palestiniens, ils parlent de ma terre avec mes laitues qu'il faut arroser comme ça, sinon ça va pas marcher. Les oliviers, lui, cet olivier-là qui vient d'être détruit avait 150 ans. C'est encore petit, donc il n'y a pas d'olives. Tout reste assez réel, enfin, ils sont toujours plongés sur leur terre. Et comme vous avez venez de rappeler, en fait, ils tracent toujours des, enfin, quand il travaille sur la terre, quand il dessine
sur le sol,
c'est une relation physique et pas du tout abstraite. Et cela m'avait touché parce que c'était une histoire très spécifique par rapport à Gaza, mais très universelle par rapport aux histoires des Palestiniennes. On peut dire que eux, comme habitants originaires de la bande de Gaza, avaient été épargnés par les guerres d'avant. Ils sont parmi les Palestiniens qui habitent encore dans leur territoire où ils ont vécu depuis des générations. Et donc, qu'ils vivent ça en 2009, c'est comme si l'histoire revient dans des formes différentes, mais elle revient. Donc, c'était une manière aussi de raconter, enfin, pour les cinémas documentaires, pour les cinémas tout court, il faut trouver les moments où l'histoire s'accélère pour filmer un processus qui peut prendre un temps très long. Et là, j'avais la sensation d'être dans un moment d'accélération de l'histoire, où une communauté qui restait dans leur champ traditionnel, sans trop bouger, même si l'histoire bougeait autour d'eux pendant 100 ans, se retrouve vite, dans une semaine, à faire face à cette histoire qui les répand vraiment avec une violence terrible. Et donc, c'est une histoire qu'il faut raconter. Moi, je me pose toujours le problème en termes de possibilité de raconter des histoires. Ce n'est pas des films, des militants ou des. Je suis à côté des protagonistes d'une histoire pour pouvoir mieux raconter l'histoire même. Et là, je trouvais que dans cette tragicité, il y avait quand même quelque chose à raconter de très spécifique, même unique, et qui pouvait, du coup, c'était une exception par rapport à Gaza, mais quelque chose qui pouvait nous amener au fond, à l'universel de ces conflits aussi.
La particularité, on l'entend dans l'extrait qu'on vient de diffuser, c'est la disparition des pères aussi. On entend cette mère qui vit seule et qui se retrouve à éduquer ses enfants. Et c'est quelque chose qui est assez frappant dans Samouni Road, c'est qu'on voit finalement beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, et les pères ont disparu.
Oui, ça c'était une autre particularité de cette histoire, de cette partie de la famille que j'ai filmée. Et c'est difficile en fait. Je pense qu'au fond, les films... Le sujet central du film, je me rends compte après l'avoir fini, c'est la transmission de l'héritage dans un contexte où les pères ont disparu. Et les pères, c'est pas parce que les mères, surtout comme Zeynat, c'est des personnages héroïques dans ça, parce qu'ils sont quand même tout les poids de la survie, de la transmission de la culture, du quotidien. C'est quand même assez incroyable ce que Zeynat a réussi à faire avec ses enfants. Mais avec toute une génération qui est décimée, comme dans ces cas, il y a vraiment une sorte de coupure dans la transmission de la culture, du savoir, qui est très dangereuse. Parce qu'en fait, ça arrive tout le temps. C'est arrivé en Europe à cause de la guerre et après du progrès déraisonné dans les régions rurales. Ça arrive. Donc ça c'est vraiment universel. Et il y a des moments où les passages, la transmission de la culture qui s'est faite d'habitude avec une certaine douceur, et ces coupes où les fils commencent à n'être plus continus. Et là, je pense que le cinéma a besoin de trouver sa place. Enfin, il trouve automatiquement sa place. Parce que sa place, il devrait la trouver comme archéologiquement pour reconstruire les fils qu'ils se sont coupés. Retrouver vraiment les liaisons où il n'y en a plus. Et comme ça, contribuer au futur aussi. Parce que dès qu'il y a plus de vraies transmissions réelles de la culture et de l'identité, il y a toujours des manières, par d'autres systèmes qui sont en place, d'autres pouvoirs en place, de surimposer leur agenda sur la nôtre et sur celle. Donc, enfin, les pères qui n'est plus là ne peut plus dire je suis pas un martyr du djihad islamique, j'ai juste fait confiance aux Israéliens parce que j'ai travaillé 20 ans chez eux à Tel Aviv jusqu'à 2000. Et c'est pour ça qu'on m'a tué. Mais il ne peut pas venir nous dire ça. Et donc, mais quand toute la famille me raconte ça, j'ai les devoirs, enfin les devoirs narratifs, je sais pas comment dire, pour rendre justice à cette histoire, de raconter ça de la manière la plus évidente possible. Donc on a sélectionné certaines histoires du passé de la famille et on les a reconstruites en animation et on a rendu évident certaines choses qui étaient pour nous, pas pour moi qui ai passé beaucoup de temps avec la famille, mais que les images documentaires en soi ne rendait pas évidente.
Je vous propose qu'on écoute un extrait justement de la voix des pères en images d'animation. Tu as entendu, ils ont lancé des tracts à Shujaïa. Ils disent qu'il faut partir. Mon beau-père m'a dit qu'ils partent en ville. Shujaïa et Talalawa. Tout le monde part en ville. J'ai pensé à amener ma famille chez mon beau-père. Qu'allez-vous faire en ville? On n'est pas des réfugiés. Tu veux manger dans les écoles de l'ONU et manger des boîtes de sardines? Tu n'auras même pas de sardines. Je te rappelle qu'on n'aura pas de carte de rationnement. Et moi j'emmène où mes femmes et mes enfants? Non, on ne part pas. Les Israéliens nous connaissent bien. Ils sont restés des années dans leur colonie à Netzarim. On ne leur a jamais rien fait. S'ils viennent, je leur parlerai en hébreu, je leur dirai qu'on a travaillé en Israël. C'est ce qui me semble le plus sage. Mais Ibrahim, fais gaffe avec ton fils et ses amis du djihad islamique. Ah oui, il fait peur, Mohamed. Il va courir derrière les tanks en gueulant dans son mégaphone. Il a eu un bébé, il ne fera rien. Sa femme en attend un autre. Faites confiance à Dieu, rien ne va arriver ici. Tu as raison, Abou Salah. Restons ici tous ensemble. D'accord, je vais faire venir ma première femme avec ses enfants chez moi. Chez Seyla, on sera tous ensemble. C'est la guerre quand même. Des deux femmes ensemble, mais elles vont s'entretuer. Tu crois pas que la Croix-Rouge a déjà assez de boulot ? Stefano Savona, on écoute un deuxième extrait de votre film Samouni Road, où là, cette fois, c'est donc la voix des pères qu'on entend et que vous avez reconstitué, donc en images d'animation. Comment cette idée-là est venue ?
Oui, justement, parce que je voulais être à leur côté avant la guerre, m'éloigner le plus loin possible dans le passé pour comprendre qui était le protagoniste de cette histoire. Surtout cette génération de pères que j'ai commencé à connaître de tous les discours que j'avais avec les enfants. Et donc, j'arrivais aussi à reconstruire toutes les différences. Même parmi les frères, il y avait des personnalités très différentes. Ils n'étaient jamais d'accord. Chacun avait son, pas juste son caractère, mais son point de vue politique assez précis. Mais tout ça, c'était impossible de les rendre dans les films exclusivement avec les témoignages. C'était absolument impossible. J'essayais de monter avec les images documentaires quelque chose qui puisse raconter ça. Et je voyais qu'on était complètement perdu chaque fois. Même dans une longueur 10 fois plus étendue, on n'arrivait pas à sentir ce monde d'avant qui avait été détruit par les bombardements. Alors je me suis dit que la reconstruction en image animée était la seule possibilité, parce que justement sinon j'aurais pas pu faire de la fiction avec, parce que quand même pour moi c'était extrêmement important d'avoir les visages, les corps, les témoignages des survivants tels qu'ils c'était. Donc je me suis dit que l'animation, mais quelle animation, après ça c'était les vrais problèmes, aurait pu raconter bien cette histoire. Après, quand j'ai découvert cette technique d'animation qui a vraiment une capacité de rendre compte de la mémoire, parce que c'est très difficile à réaliser et très matériel avec ses textures presque des terres, des sols. Et c'est une technique de Simon Emas, le chef animateur avec qui j'ai travaillé avec une équipe de 30 animateurs. Pour réaliser les films, j'ai vu un court-métrage de Simone et je me suis dit, enfin, qui parlait en fait de ça, la mémoire de son village dans l'Italie centrale, une mémoire paysanne encore une fois. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça que je peux mettre en scène la mémoire d'Amal et des autres enfants, et dans cette mémoire faire ressurgir la figure des pères et les villages aussi, parce que les villages avaient été complètement détruits et je voulais les montrer tels qu'ils étaient avant la destruction. Donc on a commencé un long travail très compliqué, parce que je voulais être à la fois un peu onirique avec cette technique qui mélange hyperréalisme et abstraction, mais je voulais surtout être très précis dans la reconstruction, à la fois des visages et des disparus, des bâtiments détruits du quartier. Donc j'ai reconstruit d'abord en 3D, en image de synthèse, tous les quartiers et tous les personnages. On les a modélisés avec des personnages 3D. Je les ai placés dans les quartiers, on les a animés. Je les ai filmés avec une caméra virtuelle, comme si je pouvais me déplacer dans ces quartiers reconstruits comme dans un jeu vidéo. Et donc je les ai filmés comme du documentaire, complètement comme du documentaire. J'ai monté les séquences dans une forme préliminaire. Et après, j'ai imprimé chaque photogramme, chaque image de ces séquences. Et je les ai fait redessiner à ces animateurs, à ces dessinateurs, donc Simon et les autres de l'équipe, pour reproduire à la fois quelque chose de très précis, mais avec une technique qui laissait la place au documentaire d'une certaine manière, parce que quand même le travail pénible pour gratter ces feuilles de papier.
Les images, oui, c'est un type d'image très très particulier, oui. Qui fonctionne par grattage.
Oui, oui, par grattage du pastel à l'huile noire sur un feuille blanc. Et donc la lumière sort d'une ardoise noire et c'est avec la lumière qui est construite l'image. Et c'est un processus pénible qui produit 4 images par jour, en moyen, par chaque animateur. Et pour faire une seconde d'animation, il faut 8 images. Donc on a produit, je pense, quelque chose comme 20 000 dessins. On ne les a pas comptés parce que sinon on serait découragé bien plus tôt. Et c'est un travail énorme, mais qui, d'une certaine manière, pour moi, que je fais surtout des documentaires, c'est toujours difficile de faire avec la reconstruction. Je pense que je paye cette sorte de pacte avec les diables, avec le travail.
Oui. La reconstitution.
Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui me semble toujours impossible de se battre avec Dieu sur son propre territoire. Et si on le fait avec, enfin, si on en assume la difficulté et on l'extrémise même, on la met en scène presque. Je pense que ces dessins met en scène aussi sa difficulté, sa propre difficulté dans sa... c'est aussi un peu, comment dire, pas difficile, mais pas évident pour le spectateur de s'habituer à cette technique. Mais quand même, on rentre... Enfin, on a la prétention de reconstruire la mémoire de quelqu'un qu'on a vu 15 secondes avant, qu'on verra 15 secondes après, en train de souffrir... pour de vrai, 10 jours après la destruction de sa maison et la mort de son père. Donc on ne peut pas, comment dire, la facilité d'une autre forme de reconstruction filmique ne se prête pas à dialoguer avec des images qui sont aussi chargées de vérités comme les images documentaires. Et donc la tentative, c'est de dire on assume la difficulté, l'impossibilité presque de ces processus de reconstruction. Et on la rend part du cœur du film, mais avec le temps de travail des animateurs qui redonnent vie d'une certaine manière au personnage qui a la prétention de reconstruire.
Un jour, je voulais rentrer chez moi, là où le 17 avril 75, on a quitté cette maison. Je n'ai jamais pu retourner vraiment. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas. Mais pourtant, je visionne très bien le monde recoin. Presque toutes les couleurs, les assiettes, les armoires, les greniers, tout ça, de haut en bas. Et je me disais, bon, puisque cette maison maintenant, il est transformé, cassé, ce n'est plus la même couleur, ce n'est plus la même forme. Je disais, bon, on va faire un petit personnage, puis on construit son univers à toute cette personne pour voir comment cette mémoire, la mémoire de l'image, que personne n'arrive finalement à détruire. On arrive à tuer les gens, mais on n'arrive pas à détruire l'image qui est en nous, en fait, dans notre tête. On arrive même à nous changer des vêtements, on a même changé des mots, nous empêcher peut-être même de bouger, mais pas l'image.
C'est la voix de Riti Pan qu'on entend, Stefano Savona, une archive sur France Inter en 2013, au moment de son film « L'image manquante ». Il parle de cette idée-là, que la mémoire de l'image, c'est quelque chose qu'on ne peut pas détruire. Est-ce que c'est quelque chose aussi, une idée qui a compté pour vous, en tout cas pour ce film, Samouni Road?
Oui, absolument. C'est ça me touche beaucoup, là, d'entendre Riti Pan. Parce qu'en fait, quand j'ai vu son film, que je trouve un chef-d'œuvre, un des films que j'ai plus aimé dans l'histoire du cinéma tout court, pas que du documentaire, et l'image manquante, et j'étais en plein début de travail sur mon animation, je me suis dit voilà une autre manière de répondre à la même question, et voilà une manière que je trouvais pas similaire, enfin du point de vue anecdotique avec ce qu'on avait choisi, mais je la sentais très proche dans son désir des réalités, comment dire, des réalités physiques, documentaires, à l'intérieur d'une mise en scène que par sa nature est toujours abstraite. Et le fait que quand même aussi le processus qui l'a amené à faire ses choix, ça rassemble beaucoup aux miennes. C'est-à-dire, lui, il était, évidemment, c'était des images que lui, il avait à la première personne, parce que c'est sa famille, c'est son histoire. Moi, je ne vais pas prétendre une telle intimité avec les images que je mets en scène avec Gaza. Ce sont des endroits où j'ai, travaillé depuis 20 ans le Moyen-Orient, la Palestine. Mais évidemment, il n'y a rien à voir avec, avec la proximité d'Arity Ban à sa propre histoire. Mais les soucis, je pense que les mêmes. Moi, je reviens à mes origines d'archéologue, parce que j'étudie l'archéologie avant d'être cinéaste, et avec cette idée qu'il faut retrouver une manière de donner forme à une mémoire. Après, c'est la mémoire de l'image. Dans mon cas, c'est, je pense, c'est plus la mémoire de ce qui reste, du fragment, de ce qui reste qui est détruit. Contient sa propre mémoire. Et il faut trouver la manière de la mettre en scène et de la mettre en scène avec son propre langage. Donc, oui, s'il y a un film que je trouve frère, pas proche, mais frère aîné du mien, sans doute L'image manquante, plutôt que d'autres films d'animation qui ont traité des questions similaires avec des images d'animation.
Est-ce que vous avez montré ce film à la communauté de la famille Samouni ?
Et j'ai tout montré beaucoup, presque l'intégralité du film, par morceau. Toujours, je ne vais pas montrer dans le sens que je l'ai amené là-bas, parce que je n'ai pas pu rentrer à Gaza récemment. Mais comme j'avais besoin de leur aide pour certaines voies, même si ça marchait très mal, parce que c'était compliqué de les faire à distance. Et après, pour contrôler certaines scènes, et après pour montrer certaines choses, je voulais savoir d'abord s'il s'est retrouvé, s'il se reconnaissait dans mes images. Et donc, j'ai envoyé des liens, ils ont regardé comme ils sont pu, parce que la connexion là-bas n'est pas géniale, malheureusement. Et là, je pense que le processus de travail sur les films sera bouclé le moment où je pourrai faire organiser une vraie projection avec toute la famille dans les quartiers pour partager cette reconstruction. Parce que on est resté toujours très liés, très en contact depuis quand j'ai tourné avec eux, avec les Samouni, et ils se moquaient de moi, ils disaient, mais tu vas jamais arriver à finir ces films, figure-toi, mais tous les autres, parce qu'il y a eu d'autres reportages, quelques films sur leur histoire, entre-temps. Mais les gens passaient, filmaient, et après, enfin, un an, 6 mois plus tard, il y avait quelque chose. Mais donc, dans mon cas, ils pensaient juste peut-être que j'étais fou, ou que je n'arrivais pas à finir. Donc, quand même, là, il s'attend cette projection dans les quartiers. J'espère en janvier, en février, je sais pas, parce que déjà des fois, j'aurais dû. J'avais eu l'espoir de pouvoir rentrer, parce qu'il y a eu le mariage de Mahmoud. Donc, début août, quand j'étais à Jérusalem, j'ai montré les films au Festival de Jérusalem. J'espérais pouvoir rentrer à Gaza, mais c'était pas possible.
Ce qu'on entend aussi dans l'archive de Arity Ban, c'est qu'en tout cas, l'image est fortement liée à la mémoire. Oui. Comment vous faites le lien entre mémoire, le récit dont on parlait tout à l'heure, et la question des images? Comment elles s'insèrent, les images, dans cet enchaînement-là?
Mais dans mon cas, c'est... Quand on parle des cinémas du réel, des réels, des documentaires vis-à-vis de la fiction, comme si les réels pouvaient rester au temps présent et sur la surface. Mais notre réel est d'abord notre mémoire. Enfin, si on est mort, la première chose qui n'est plus là, c'est notre mémoire. Et notre mémoire est bien plus réelle qu'autre chose. Nous sommes notre mémoire, on peut dire. Enfin, notre cerveau est fait de notre mémoire, donc toutes les images, toutes les choses que nos sens ont vécu restent, une forme de ces choses reste dans la mémoire. Et ça, on se rend compte quand on dort avec les rêves, ça c'est assez puissant comme outil de mise en scène aussi, de reconstruction. Et donc, moi, j'ai jamais pensé de remettre en scène le passé de la famille, mais la mémoire du passé de la famille. C'est pour ça que j'ai voulu le faire en passant par les visages, par les yeux d'Amal, d'une certaine manière.
D'Amal, la jeune fille.
La jeune fille, oui. Elle, du début du film, elle part très peu. Ses frères me racontaient toujours beaucoup de choses. Ils nous racontent dans les films beaucoup de choses. Elle parle très peu à cause de son traumatisme, à cause du fait qu'elle est timide, qu'elle est une fille, donc elle n'a pas sa place, même de narratrice dans la famille. Ses frères, dès qu'elle commençait à parler, ils disaient, tais-toi, t'es une fille, comme si elle n'a pas le droit d'exister comme les autres, parce que c'est vrai, c'est une société patriarcale, donc c'est quand même... Une fille doit lutter plus pour trouver sa place comme protagoniste, même dans la mémoire. Et en plus, elle, c'était celle qui était déjà considérée morte par tout le monde. Enfin, elle est revenue de mort, elle était déjà dans la liste des martyrs. Sa photo est à côté de la photo de son père sur les murs de sa maison. La photo de son père mort, des photos du cadavre de son frère, parce qu'elle n'avait pas de photo de son frère vivant. Donc, et ça doit être assez lourd pour une fille de 11 ans d'avoir sa photo à côté des martyrs. Et j'ai demandé à sa mère, mais pourquoi? Elle a dit, mais quand même, elle a dit, mais Amal, elle est vivante. Oui, mais elle est blessée, oui. Mais quand même, elle est là. Enfin, donc, sa mémoire est là. Elle cherchait de la faire ressurgir. Elle y arrivait par moment. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette mémoire? Et à partir, j'ai imaginé sa mémoire, en fait, pour imaginer sur la base de toutes les histoires qu'elle et ses frères m'avaient racontées. Donc, en fait, les données de base sont absolument précises, mais la forme, les points de vue et tout ça, d'Amal, je l'ai reconstruit à partir de son caractère, de son visage, de son envie de raconter l'histoire. Donc, en fait, je mets en scène la mémoire et c'est pour ça qu'elle a cette forme, elle n'a pas une autre forme de réalité. Et la mémoire, plus on se plonge sur qu'est-ce qu'on a dans notre mémoire comme image, plus on se rend compte que c'est des images qui sont extrêmement réaliste, mais pas du tout réaliste. On a plutôt des photos que des images en mouvement. On a des moments où on a des coins de lumière et d'autres complètement d'ombre dans la même mémoire. Mais c'est, je pense que le cinéma sort de cette partie de notre cerveau, pas de la, c'est jamais de la et d'un enregistrement du réel avec une caméra. Ça nous aide pour remettre en scène, même dans les documentaires, pour remettre en scène quelque chose qui doit être ailleurs. Sinon, c'est pas du cinéma, à la limite.
La mémoire monte, d'après vous? Enfin, elle fait du montage?
Oui. Oui, oui, c'est fait du montage toujours assez... Le sommeil paradoxal, c'est du remontage des mémoires, mais... Quand elle monte, elle nous fait découvrir des choses. En fait, c'est pour ça que c'est aussi nécessaire. La partie du sommeil qui est dédiée à le sommeil paradoxal, c'est le moment où on remet ensemble des morceaux de réalité, des mémoires qui sont encore fluides. Et notre créativité s'est nourrie de ces remontages. Parce que des choses qui sont lointaines, parfois, elles se mettent ensemble et on découvre des choses. Et on a découvert, de façon scientifique, que c'est comme ça que ça marche. Donc, le cinéma nous fait découvrir des choses quand il arrive à remonter ensemble des choses que personne n'avait montées ensemble. France Culture, par les temps qui courent, roman de Bec de Lièvre avec Stefano Savona.
Same here. same dress, same smile. Taste become sweet, colors reduce their range. She likes them all. No danger at corners, no sharp edges, no threat.
Cet hôpital n'est-il pas situé dans le secteur est du quartier d'Al-Shu'aya, à l'est de la ville de Gaza, à très faible distance de la frontière entre Israël et Gaza, la ligne verte? Fondé en 1996, ne s'agit-il pas d'un établissement pour patients recevant des soins de longue durée, souffrant de traumatismes crâniens et de la colonne vertébrale? Nombre de ces patients ne sont-ils pas des personnes particulièrement âgées? Cet hôpital ne peut-il pas accueillir plus de 50 patients et ne se compose-t-il pas de 3 bâtiments? Du sud au nord, ne s'agit-il pas de bâtiments administratifs, 3 étages? Du bâtiment de l'hôpital, proprement dit, chambre des patients, salle de consultation, 7 étages? Et du bâtiment pour personnes âgées, réception et réadaptation, 3 étages? Cet hôpital n'avait-il pas fait l'objet d'une attaque intensive le 16 avril 2008? Des chars n'avaient-ils pas alors tiré dessus et dans les immeubles avoisinants, endommageant un grand nombre de chambres et causant de graves dommages aux bâtiments abritant les services de réadaptation pour personnes âgées? Le personnel de cet hôpital n'avait-il pas indiqué qu'aucune présence armée ne se trouvait à l'intérieur au moment de l'attaque, sans pouvoir dire s'il s'en trouvait peut-être une à l'extérieur? Cet hôpital n'avait-il pas été attaqué à nouveau au cours des opérations militaires de janvier 2009? Bien qu'on ait rapporté qu'un avertissement a bien été lancé, le personnel de l'hôpital ne nie-t-il pas avoir jamais reçu un quelconque signal spécifique? Des tracts n'ont-ils pas été largués dans le quartier indiquant en termes généraux que tout appui au Hamas serait puni? Cet hôpital n'a-t-il pas également reçu plusieurs avertissements sous forme de messages téléphoniques préenregistrés, mais sans indication particulière qu'il ferait lui-même l'objet d'une attaque et encore moins du moment de celle-ci? Selon un médecin, cet hôpital ne recevrait-il pas 4 de ces messages quotidiennement depuis le premier jour des opérations?
Stefano Savona, on entend ici la lecture d'un texte de Frank Smith diffusé sur France Culture en 2013, un texte qui s'appelle « Gaza d'ici là » et qui revenait lui aussi comme votre film Samouni Road sur l'opération Plomb Durci. Et on entend cette ritournelle de questions comme autant de manières de tourner autour d'un événement. Et j'aimerais qu'on revienne sur une des séquences du film, qui est la séquence du bombardement proprement dit de cette zone de Zeytoun par l'armée israélienne, où là se mêlent donc les images d'animation qu'on a décrites jusque-là et des images d'archives de l'armée.
C'est des images d'animation qu'on a recréées à partir d'une compte rendu de l'armée israélienne, d'une enquête interne de l'armée israélienne.
Donc c'est vous qui les avez créées intégralement.
Oui, c'était. Enfin, on l'a dit d'ailleurs dans un carton à la fin. C'est des images de synthèse dans lesquelles on a mis en scène les points de vue des drones, mais sur la base d'une enquête qui était amenée en 2010 par l'armée israélienne, où ils ont quand même reconstruit les responsabilités qui ont amené au bombardement. Donc on a été assez précis par rapport à cette... tous les dialogues qu'on a reconstruits sont
les dialogues des militaires israéliens entre eux.
Oui. On n'avait pas les dialogues exacts, mais on les a reconstruits sous la base des conclusions de cette enquête. Donc on parlait justement du fait que c'est lui qui avait donné l'ordre d'étirer, il l'avait fait parce qu'il avait pris des planches de bois pour un lance-roquette ou un lance-grenade, que les militaires sous l'hélicoptère qui auraient dû exécuter l'ordre a demandé de contrôler s'il y avait des civils dans la maison, et le colonel qui avait donné l'ordre de tirer a dit n'avoir pas entendu cette demande. Donc l'autre dans l'hélicoptère il a tiré, et après quand il a vu qu'il y avait des enfants, donc à ce point-là c'était sa responsabilité à lui de dire il y a des civils, parce qu'il les avait vus, il les avait reconnus, et là il a pu n'ait pas accepté l'ordre de continuer à tirer. Donc finalement, celui qui a tué, qui a tué les premières civils, après, il en a sauvé beaucoup plus 3 minutes plus tard. Et ça, c'est des données qu'il nous a donné l'armée israélienne, et dont je pense qu'on ne peut pas douter.
Mais est-ce que dans le montage de cette séquence-là, où on a donc d'une part les images d'animation qui montrent l'intérieur de la maison, oui, avec la communauté familiale, et de l'autre côté des images reconstituées du point de vue israélien, c'est une certaine manière pour vous de montrer quelque chose de la guerre des images aussi?
Oui, en fait, moi je l'ai fait d'abord pour une raison très pratique, parce que pour raconter cette histoire, il y avait quand même la nécessité de savoir un peu plus qu'est-ce qui avait amené à ces bombardements. Parce qu'il y a dans une guerre, il y a beaucoup de confusion. Mais une fois qu'on connaît un morceau d'une histoire précise, pour des raisons de pureté, des points de vue, j'aurais jamais pu éviter de la raconter. Parce que parfois on s'est dit, on s'éloigne de quelque chose qui est vécu de l'intérieur, mais quand je raconte une histoire, tous les moyens sont possibles pour moi. C'est, si j'ai envie de la raconter dans son intégralité. Donc d'abord ça, et après en travaillant sur les images des drones, enfin en étudiant beaucoup les images des drones, les vraies, enfin les images originaires, parce qu'il y en a beaucoup sur YouTube mis en ligne par l'armée israélienne, par d'autres armées. Et j'ai trouvé que c'était quand même aussi, comment dire, déjà c'était intéressant d'utiliser les images qui avaient amené à faire ces choix. Donc, je n'ai pas reconstruit comme ça de manière aléatoire. J'ai construit comme ça parce que c'était les images qui avaient amené quelqu'un à une certaine distance à prendre la décision de tirer ou de ne pas tirer. Et de l'autre côté, je pense que ça, je me suis rendu compte plus tard dans le processus de travail sur les films, au montage et après quand j'ai montré les films les premières fois. Ça nous ramène en fait à notre point de vue à tous sur ces guerres. Parce que là, le but du film, c'est de nous faire approcher de plus en plus avec des protagonistes d'une histoire que d'habitude on regarde de l'extérieur. Donc, dans les documentaires, on les voit nous regarder, nous dire des choses. Après, on entre dans leur mémoire, comme on vient de dire. On cherche de percer les visages pour entrer dans un territoire qui est la mémoire des protagonistes. Et après, avec ça, progressivement, on est à leur côté, donc cette sorte de machine à empathie qui est le cinéma nous amène à vivre l'histoire avec eux. Donc c'est très différent par rapport au début où on nous raconte une histoire, donc c'est là, c'est le contraire de la vivre avec eux. Après, on la vit avec eux, et donc on sent quand même que même dans la tragédie, on est à côté de quelqu'un qui est en train de la vivre. Et après, c'est assez violent pour le spectateur quand on est repoussé à quelques centaines de mètres, kilomètres de distance, avec notre œil artificiel qui pense comprendre, et en fait il est ramené juste à la morbidité du regard, au regard qui peut être indigné mais qui reste extérieur au fait. Et finalement ça nous rappelle la manière qu'on a la seule possible, enfin je ne dis même pas que c'est qu'il y en a beaucoup d'autres, mais nous d'ici quand on regarde un journal télé ou des images d'une guerre, comme on n'a pas le temps souvent de savoir qui sont les protagonistes d'une histoire, pourquoi, comment, et donc on est à l'extérieur, on s'indigne ou on est content si les ennemis sont tués, je sais pas, mais on les... Mais c'est ça, c'est notre distance. C'est toujours la distance. C'est beaucoup plus proche à la distance du point de vue des drones qu'au reste du film. Donc, d'une certaine manière, nous, enfin, je mets en place un processus qui nous s'approche de plus en plus. Et après, boum, au moment plus tragique.
Arrière.
Et oui, on fait un zoom arrière. Même dans les moments plus tragiques, on repart à zéro avec cet approchement, et après la deuxième partie du film, d'une certaine mesure, on recommence ces processus pour être à nouveau à côté d'eux vers la fin du film. Mais je suis conscient que c'est pas le moment le plus tragique juste dans l'histoire, parce que c'est le moment du bombardement, donc de la mort, mais c'est aussi le moment plus tragique, plus difficile à vivre pour les spectateurs. Parce qu'avant, il y a déjà un autre moment du film où il y a déjà la mort qui est présente. Mais nous, là, on la vit avec ses protagonistes. Et donc, il y a de l'empathie dans ces moments-là. Et le moment des drones, par contre, c'est dur. Enfin, on est confronté à notre impuissance aussi.
Est-ce que pour vous, le documentaire relève de la question justement des points de vue? Est-ce que pour vous, faire un documentaire, c'est multiplier les points de vue sur une histoire?
Moi, je pense que le cinéma, c'est juste une question de points de vue. Soit la fiction ou le documentaire, c'est pas forcément multiplier les points de vue, mais c'est assumer des points de vue. Ben, je pense que pour moi, ça m'intéresse pas quand je vois pas, quand je reconnais pas les points de vue de celui qui est en train de regarder. La caméra, si la caméra devient une caméra de drone, ça m'intéresse. Je pense que c'est pas du cinéma en soi. C'est pas quelqu'un qui dit, au fond, tout l'art. Pour moi, c'est quelqu'un qui dit, je te raconte une histoire. Mais si je sens pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de me raconter une histoire, donc qui a un point de vue, et qui est subjectif, mais pas pour autant faux, je m'intéresse pas à l'histoire. Le documentaire, encore plus, parce que là, les points de vue, ça se négocie à tout moment sur le terrain. Donc c'est encore, ça extrémise quelque chose qui est quand même, qui fait partie de toute image produite, que ce soit de la peinture, du cinéma ou de la photographie. C'est toujours une relation entre quelqu'un qui regarde et quelqu'un qui est regardé. Donc je ne vois pas comment ne pourrait pas être question de point de vue.
Ce qui est sûr, c'est que quand on est au fond du gouffre, on est au fond du gouffre. Si on commence à sortir du gouffre, déjà c'est formidable. Et c'est vrai que moi, la première chose qui me fait sortir du gouffre, c'est que vous savez, quelqu'un qui est en train de se noyer, il a un réflexe, c'est d'agiter ses petites mains pour flotter. Moi, quand j'agite mes petites mains, je fais des dessins et j'ai plus confiance dans mes mains que dans ma tête. Et donc, je me suis sorti avec mes dessins.
Stéphano Savona, on vient d'entendre la voix du peintre Gérard Garouste en 2018, une archive de France Musique, où il dit que pour lui, dessiner, c'est sortir du gouffre. Et en tout début d'émission, je parlais de tous ces gestes-là que vous filmez, c'est-à-dire que Amal, la jeune fille palestinienne, on la voit dessiner, son frère Mahmoud, on le voit dessiner, son père, on voit tous ces gens qui tracent dans le sable des signes. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de la construction de ce documentaire, ça, de filmer l'acte, en tout cas de tracer les images?
Oui, absolument. C'était ça, je pense que c'était aussi parmi les choses qui m'ont poussé à essayer de produire mes propres images dessinées pour raconter cette histoire. Je me suis dit à un moment, peut-être il faudrait utiliser les dessins originaires des enfants. Et après, je me suis dit, non, c'est important de les voir, de voir leur propre relation à l'image dessinée. Mais c'est important d'assumer que c'est plus compliqué que ça. Enfin, qu'il faut participer de ces processus, mais les transférer dans un autre domaine, que c'est celui carrément de la production d'images animées, qui est quand même quelque chose de très compliqué, de très spécifique, à laquelle je n'avais jamais eu accès avant, et qui, pour les gens qui font ça, enfin, font des images animées, j'ai un respect énorme. C'est vraiment un travail, presque des recherches c'est presque la recherche de soi, chaque dessin, chaque image, c'est de la méditation presque.
Et c'est un travail. Ce qu'on voit aussi le travail d'Amal aussi quand elle dessine, ce que je disais, le sycomore qui a disparu au charbon de bois. On voit ce travail de reconstitution. Oui. Elle dit j'essaie de dessiner le sycomore.
Oui. C'est le travail dans l'essence originaire d'accouchement et des choses pénibles à faire. C'est pas l'œuvre qui vient de nulle part. C'est le travail, le labeur dans la. C'est comme labourer en dessin. Ça, c'est la. Je l'ai vu. Enfin, j'ai vu un dessinateur qui labeure la feuille jusqu'au moment où le dessin accouche. Donc, c'est quand même quelque chose qui est où on voit vraiment la naissance de quelque chose et la renaissance dans ce cas. Moi, j'ai dit, c'est pas de l'animation, c'est de la réanimation. Dans ces films.
Et que c'est une manière aussi, en tout cas, qu'à chacun, de faire sa propre image de l'événement et du traumatisme qui a pu être vécu.
Oui. Et c'est à nous de nous emparer des images, comment dire, de ces mémoires et la transformer en cinéma. C'est ce que, en fait, j'ai demandé à tous les animateurs qui ont travaillé sur les films de voir beaucoup de la partie documentaire, même si c'était pas la rigueur nécessaire, vu qu'ils redessinaient des images qu'on avait produites nous-mêmes. Et surtout les images où Amal ou les autres protagonistes dessinaient. Parce que c'était vraiment, je sentais un peu par magie, une sorte de synchronisation dans les gestes. Surtout encore plus que ces techniques, c'est des grattages, c'est fait avec des outils en métal qui sont dans une autre proportion, dans une autre dimension, mais sont exactement comme les pioches que les Samounis utilisent tous les jours dans leurs champs. Et si on les filme en très gros plan, en macro, on peut dire que c'est des gens qui sont en train de piocher sur une feuille pour faire ressortir des dessins. C'est absolument la même matière. Même le travail sur la musique qu'on a fait avec Giulia Tagliavia, la musicienne, on est parti de cette sorte de synchronisation sur des plans, sur des choses parallèles mais différentes. Et elle aussi, elle a utilisé beaucoup de grattages, beaucoup comme d'instruments, des soins de musique grattés ou des grattages juste sur d'autres matières pour reproduire sur une autre dimension à la fois les gestes des paysans dans la terre qu'on montre dans les films et la technique qui les fait surgir dans les grattages des feuilles. Donc ça, il y a quand même une sorte de surimposition de niveaux différents pour arriver au naturel de l'image finale.
Est-ce que vous allez continuer dans vos prochains films à travailler avec de l'animation?
Surtout pas. C'était très compliqué, très long. J'ai beaucoup aimé ces travaux, mais je vais essayer de faire des choses compliquées, mais peut-être dans un autre domaine. Disons, la reconstruction m'intéresse toujours, évidemment. La mise en scène de la mémoire m'intéresse, mais là, je pense que je vais travailler plus sur des questions de remise en scène de la mémoire dans des contextes théâtrales à l'intérieur du documentaire. Où c'est peut-être encore plus compliqué parce que c'est plus sur un feuillet de papier, mais c'est avec des êtres réels qui on va travailler pour faire ressurgir la mémoire.
Avec des gens qui ont vécu les choses et qui seraient acteurs.
Oui, un mélange des gens qui ont vécu des choses qui vont les remettre en scène avec des gens qui ont vécu des choses différentes et donc et qui vont jouer les histoires des autres. Donc encore une fois, c'est une sorte de montage en temps réel entre des univers qui ne sont pas forcément conscients de leur parallélisme que l'un avec l'autre permet de revivre la mémoire et la soigner, si c'est le cas, et par un montage presque théâtral.
Merci. Stefano Savona, votre film Samounis Road est sorti en salle mercredi.
Merci.
Ce soir au son, c'était Valérie Lavalard. Lise-Marie Barret était à la réalisation. Par les temps qui courent, on se retrouve lundi à 21h. Merci à Jeanne Aléos, Anna Baron et Lou Quevauvillier qui pensent et préparent cette émission avec moi. Pour réécouter Par les temps qui courent, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceculture.fr où vous pourrez vous abonner au podcast.